Bonjour à chacun. Vous allez bien? Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la fête, non? C'est la grande fête. Aujourd'hui, Jésus a vaincu la mort. Enfin, c'est incommensurable ce que nous commémorons aujourd'hui. Depuis 2000 ans, année après année, les chrétiens se souviennent à cette période que Christ est ressuscité. D'ailleurs, c'est tellement fort que c'est pour ça en fait qu'on se réunit même tous les dimanches. On se réunit 52 fois par année, ça fait 100 000 fois que l'Église se réunit pour se souvenir que Christ est ressuscité. C'est vraiment l'élément le plus central de la foi chrétienne. Pâques, c'est le jour où les ténèbres qui régnaient sur ce monde ont commencé à reculer. C'est le jour où la nuit a commencé à se dissiper. C'est le jour où la lumière a commencé à percer. C'est le jour où la mort même a commencé à être évacuée. C'est le jour où la vie a été rendue possible. Pâques, je ne sais pas comment vous expliqueriez le sens de Pâques quand vos amis ou vos collègues vous posent la question, mais c'est quoi en fait Pâques? Bien sûr, c'est la mort et la résurrection de Jésus, mais derrière ces faits historiques, c'est quelque chose de grandiose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait cette petite phrase pour expliquer le sens de Pâques, et vous pouvez mémoriser cette phrase et l'utiliser pour expliquer le sens de Pâques cette semaine à vos collègues ou à vos familles. C'est Pâques, c'est une mort qui donne la vie et une vie qui détruit la mort. Il y a vraiment ces deux choses qu'on se souvient à Pâques. Il y a la croix, une mort qui donne la vie. Christ meurt. Il meurt, lui qui est parfait, lui qui est Dieu, pour nos péchés. Il meurt en rançon pour que celles et ceux qui se confient en lui puissent recevoir le pardon, puissent recevoir l'adoption, puissent recevoir la vie éternelle. Puis il y a ce deuxième fait, la résurrection. C'est une vie qui détruit la mort. Christ, le premier de l'histoire, entre dans la vie, cette vie éternelle. Il montre qu'il est plus fort que la mort. C'est une mort qui donne la vie et une vie qui détruit la mort. Il est ressuscité pour détruire la mort. On arrive à la fin là, d'une petite série de 4 dimanches où on a parlé du sens de Pâques, du sens de cette mort et de cette résurrection. Et je fais juste un petit retour en arrière pour vous expliquer un petit peu où on en est. On a vu 4 choses pendant ces 4 dimanches. Il y a 3 semaines en arrière, on a vu qu'avant sa mort, Jésus explique le sens de sa mission. Et on a vu par plusieurs épisodes que Jésus a donné beaucoup d'informations sur ce qu'il est venu faire, en fait. Que sa mission, ce n'était pas juste de venir et de mourir injustement, mais que derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies. Il y a 2 semaines, nous avons vu qu'avant sa mort, Jésus subit un procès injuste. Jésus a subi ce procès injuste au moment de sa mort, cette mascarade presque de procès. La semaine dernière, on a vu un moment sombre, un moment tragique. Jésus est mort. Et on a vu qu'au moment de sa mort, Jésus accomplit sa mission. Il y a ces 3 heures de ténèbres. Il y a ce voile déchiré. Il y a cette colère de Dieu qui s'abat sur son Fils. Ce Fils qui paie à notre place sanction, la sentence que nous méritions, le jugement que nous méritions. Une heure sombre, hein. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on va voir qu'après sa mort, Jésus revient à la vie. Après ces ténèbres, c'est la lumière éblouissante de Jésus qui revient à la vie. Et on va lire ce texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. D'habitude, j'affiche le texte à l'écran, mais ce matin, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous invite, si vous avez une Bible, à l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et je vais lire tout ce chapitre 28. Je vous laisse un instant pour chercher dans vos Bibles ce texte, ou sur vos smartphones, si vous avez un smartphone. Sinon, vous pouvez simplement l'écouter, écouter ce texte à votre place. Matthieu 28, à partir du verset 1. Voilà, je lis ce texte qui nous relate la résurrection de notre Sauveur. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'ici, la lecture de ce texte de la parole de Dieu. Christ est ressuscité. C'est, j'allais dire, incroyable. Sauf qu'on va le voir, c'est croyable, justement. C'est historique. Ça s'est passé. On va voir 4 choses dans ce chapitre. Premièrement, on va voir une résurrection réalisée. Deuxièmement, on va voir une résurrection confirmée. Troisièmement, nous verrons une résurrection étouffée. Et quatrièmement, une résurrection prolongée. Comme j'ai dit, hein, la résurrection est centrale pour nous, pour la foi chrétienne. Si on pouvait prouver que la résurrection n'a pas eu lieu, tout l'édifice s'effondrerait. La foi chrétienne serait vaine, elle serait finie, terminée. Bien sûr, on ne peut pas le prouver. puisqu'elle a eu lieu, puisqu'elle est historique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est l'objet d'un film. Peut-être que certains ont vu ce film qui s'appelle « Jésus, l'enquête ». Dans ce film de « Jésus, l'enquête », c'est un journaliste qui décide de mener l'enquête. Un journaliste qui veut détruire le christianisme. Et il décide de mener l'enquête pour prouver que le christianisme, c'est juste fabulation. Et puis il a un collègue dans le journal où il travaille, un collègue chrétien. Il lui demande, il lui dit « Mais comment je dois faire pour démonter le christianisme ?» Et sur le collègue lui dit, bah, tu dois démontrer que la résurrection n'a jamais eu lieu. Ce collègue, il est chrétien, il est tellement certain que c'est impossible parce que la résurrection est un fait, bah, qu'il lui donne le tuyau comme ça, quoi. Il lui dit, bah, il faut juste que tu t'attaques à la résurrection, que tu prouves que la résurrection n'a jamais eu lieu et tout va s'effondrer. Et du coup, tout le film est pas part de là et puis ce journaliste va mener l'enquête. Il va aller interviewer plusieurs spécialistes médicaux, plusieurs spécialistes des textes originaux, plusieurs spécialistes en psychologie, dans plusieurs domaines académiques, des très hautes pointures. Et puis, il n'y a aucune faille. Il arrive à trouver aucun argument. Tout concorde. Et puis, à la fin de ce film, en fait, ce journaliste, devant l'évidence, plie les genoux. Il se tourne vers Christ et il accepte que Christ est vraiment ressuscité. Si vous voulez voir ce film, ce serait peut-être l'occasion. Une fois, on pourrait organiser une séance dans les mois qui viendraient. C'est vraiment un film qui est intéressant à voir parce qu'on se rend compte que ce n'est pas juste des fables dans lesquelles nous croyons. Ce sont des réalités historiques. Que même des spécialistes non chrétiens sont prêts à valider, parce que beaucoup des spécialistes qui sont interrogés dans ce film sont des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'adhèrent pas à la foi chrétienne, mais qui, malgré tout, valident les faits historiques. Alors passons en revue maintenant les différents éléments qui entourent cette résurrection. Premier point, ce sont les versets 1 à 7 de ce chapitre, une résurrection réalisée. Après le sabbat, les femmes viennent voir le tombeau. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai été parfois un peu perturbé parce qu'on dit souvent que Jésus est ressuscité le troisième jour. Mais en fait, il a été mis au tombeau le vendredi soir et il est ressuscité le dimanche très tôt. Alors, dans notre logique d'occidentaux, on a plutôt tendance à dire, en fait, c'est un jour. Il s'est juste passé le samedi entre-temps. Mais dans la pensée juive, chaque jour entamé est un jour comptabilisé. Et du coup, le troisième jour, ça veut dire le vendredi, le samedi, le dimanche. Et le dimanche est effectivement le troisième jour après la mort de Jésus. Jésus est ressuscité. Il y a quelque chose de surnaturel qui arrive à ce moment-là. Un tremblement de terre, l'arrivée d'un ange. Vous avez vu cet ange à l'aspect vraiment surréel. On a des gardes qui tombent comme des mouches. Et on a cet ange qui s'adresse à ces femmes. On peut dire que le contexte à ce moment-là est pour le moins extraordinaire. Mais en fait, le contenu de l'annonce de cet ange est encore plus extraordinaire. Il leur annonce que Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Il les invite à venir à inspecter le tombeau. Il les invite à aller annoncer cette nouvelle aux disciples. Mes amis, peut-être que cette scène, elle peut nous sembler assez anodine. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous vous dites, ouais, on connaît quand même assez bien ces récits de la résurrection. Mais la base de notre foi, la base du christianisme, elle est là. Elle est dans cet instant précis. Probablement l'instant le plus puissant de l'histoire de l'univers. Ça mérite qu'on prenne un peu de recul pour comprendre tout l'enjeu de ce moment de la résurrection. Au départ, Dieu crée l'humanité. Et au départ, Dieu crée une humanité, on dit souvent une humanité amortelle. elle n'est pas immortelle dans le sens que ça, la longueur de la vie des hommes se prolongerait sans fin. Et c'est encore plus profond que ça. Elle est immortelle. Ça veut dire que, en fait, la mort faisait juste pas partie du tableau. La mort n'existait pas. La mort était, c'était juste un concept inexistant dans la création de Dieu à l'origine. La mort n'était pas une option, mais le mal est entré. Le mal a fait son chemin, et il a trouvé son chemin dans le cœur humain. À partir de là, le mal s'est répandu dans la création entière, un petit peu comme un virus qui se propage. Et puis le mal a fait des dégâts de plus en plus considérables. On pourrait dire que le point le plus terrible, l'endroit où le mal est le plus insupportable, c'est dans la mort elle-même. Des êtres immortels sont devenus mortels. Et l'horreur du péché, l'horreur du mal, s'est propagée de génération en génération dans l'humanité. Seulement, après des siècles d'existence humaine et un petit peu en parallèle de cette existence humaine, d'existence et de règne de la mort, quelques femmes arrivent au tombeau. Quelques femmes voient un ange. Quelques femmes voient des gardes tomber. Quelques femmes voient cet être avec des vêtements semblables à des éclairs. Quelques femmes voient la fin de la mort. Quelques femmes voient un homme ressuscité. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y avait déjà eu des résurrections. Déjà, dans l'Ancien Testament, on a quelques récits de résurrection. Et puis, même Jésus, dans sa vie, a permis des résurrections. Seulement, toutes les résurrections qui ont eu lieu avant étaient juste, en fait, des prolongations de la durée de la vie. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, il ne ressuscite pas Lazare pour l'éternité, il le ressuscite pour quelques années supplémentaires. Il fait ça comme une indication des prémices de la grande résurrection qu'il va rendre possible au moment de sa propre résurrection. Les gens qui sont ressuscités jusqu'à Christ, et même éventuellement après, parce qu'au moment de sa mort, il y a eu des résurrections, les gens qui sont ressuscités jusqu'à Christ sont ressuscités jusqu'à ce que la mort les prenne de nouveau. Alors que Jésus, lui, est ressuscité pour l'éternité. Il est mort et il est revenu à la vie. Il a vaincu vraiment la mort. Il n'a pas juste obtenu un délai supplémentaire. Il a vaincu l'ennemi le plus terrible de l'humanité, la mort. Deuxième point, ce sont les versets 8 à 10, une résurrection confirmée. On pourrait tenter de remettre un peu cette histoire-là en question. Quelques femmes ont vu un ange, elles ont vu des gardes tomber, elles ont vu ses vêtements semblables à des éclairs, etc. Et on pourrait être tenté de se dire deux choses. Soit elles sont victimes d'hallucinations, peut-être avec l'émotion des derniers jours et tout ça. Elles avaient tellement le désir que Jésus ressuscite qu'elles ont été victimes d'une sorte d'hallucination collective. Soit, autre hypothèse, elles ont peut-être inventé une histoire abracadabrante pour essayer de se consoler ou quelque chose comme ça. Ça peut paraître étrange. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas là. Elles ne l'ont pas vu, elles ont juste eu une info de la part d'un ange. Mais Jésus n'est pas là. Alors c'est facile de dire que Jésus est ressuscité, entre guillemets, si on n'a aucun élément pour le prouver, si on ne l'a même pas vu pour prouver qu'il est vraiment ressuscité. Et c'est là que Jésus vient à leur rencontre. Il se montre lui-même. Il leur parle. Elles le touchent. C'est bel et bien lui, il est bel et bien ressuscité. c'est clair, c'est prouvé. Et en plus, Jésus va se montrer à beaucoup d'autres personnes dans la suite, si vous lisez dans les autres évangiles. Cette résurrection confirmée devient un élément central pour nous autres chrétiens. Je crois que des fois, nous autres évangéliques, on parle beaucoup de la mort et on ne parle pas beaucoup de la résurrection. Et on a besoin de réaliser à quel point cette résurrection est centrale. Et j'aimerais qu'on lise ensemble juste quelques versets dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 19. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 19. C'est un passage qui nous parle justement de la résurrection et du sens de cette résurrection. Je vous lis ici quelques versets. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Vous voyez par ce texte à quel point la résurrection est l'élément central. Il fallait que Christ ressuscite, d'après ce texte, pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que c'est la validation du fait que le sacrifice de Christ a été suffisant. C'est comme si Dieu nous montre, « Ok, j'approuve, j'accepte ce sacrifice. » Si Jésus était mort pour nos péchés et puis qu'il n'était pas ressuscité, on serait toujours dans l'incertitude aujourd'hui. On se poserait la question de savoir, mais en fait, est-ce que Dieu a accepté ce sacrifice? Est-ce que ce sacrifice était suffisant? Est-ce que nos péchés sont vraiment pardonnés? Mais Dieu a manifesté sa puissance. Il a ressuscité son Fils. Et par ce fait historique, il nous montre qu'il accepte le sacrifice, qu'il accorde le pardon de nos péchés. Deuxième élément, Christ est ressuscité et ça démontre que la résurrection est possible. Elle peut être une réalité. Si Jésus n'était pas ressuscité, on pourrait tenter de croire que c'est juste impossible. La résurrection est juste quelque chose d'impossible. Il n'y a que cette vie qui existe et il n'y a pas de vie après cette vie. Mais ce fait historique nous montre, par ce fait historique, Dieu nous montre, il nous démontre concrètement que la vie est possible. Que cette vie initiale, amortelle des êtres humains est possible. Christ a vaincu la mort. Troisième point, c'est les versets 11 à 15. Une résurrection étouffée. En prenant conscience de la résurrection, les autorités romaines essaient un petit peu d'étouffer l'affaire. Ils essaient tant bien que mal de gérer le truc. Mais le problème, c'est que la résurrection a eu lieu et rien ni personne ne va pouvoir étouffer ça. Cela dit, ils essayent d'étouffer l'affaire. Ils payent des gardes pour essayer de propager de fausses rumeurs. Et il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ça, à ce qui se passe à ce moment-là. Il faut l'admettre. La résurrection, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien et pour quelqu'un qui est un peu rationaliste, c'est quelque chose qui est un peu difficile à avaler. Comment un miracle aussi énorme a-t-il pu exister ? Mais je crois que dans cette tentative d'étouffement de l'information par les autorités de l'époque, on a vraiment une des plus belles preuves de la résurrection. Réfléchissez deux secondes à ça. Dans les jours qui ont suivi la résurrection, il y a eu deux versions qui ont circulé. Il y a eu la version des disciples qui disait que Christ est vraiment ressuscité. Puis il y a eu la version des soldats qui disait que en fait, c'était des disciples qui étaient venus de nuit pour prendre le corps du Seigneur. D'après vous, laquelle de ces deux versions était la plus croyable, humainement parlant ? Assurément, la version des soldats. Et puis l'histoire montre que généralement, c'est toujours la version la plus crédible qui va subsister à l'épreuve du temps. Seulement depuis 2000 ans, c'est l'autre version qui a subsisté. C'est la version des disciples, celle d'une résurrection authentique, historique. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible que ce soit cette version-là qui ait résisté à l'épreuve du temps ? La seule possibilité pour que ce fait se soit produit, c'est que de nombreux témoins aient vu Jésus ressuscité. Il fallait vraiment un témoignage écrasant de la véracité de ces faits pour que cette version subsiste et pas celle des autorités romaines. Il fallait que de nombreux témoins aient vu Jésus ressuscité et alors cette version pouvait être crédibilisée. Sinon, la version des disciples elle se serait juste arrêtée. Elle aurait peut-être tenu quelques jours et puis après, voilà, on serait passé à autre chose et puis c'était fini. Mais non, ça fait 2000 ans que ça subsiste parce que beaucoup de gens ont vu et parce que la résurrection est un fait historique. En plus, on pourrait noter le fait que les autorités romaines prennent le problème au sérieux. Vous avez remarqué, hein ? Elles mettent en place un plan, une stratégie pour faire passer la version des disciples pour de l'intox. Si ça avait été un canular, si effectivement les disciples étaient venus chercher le corps, les autorités romaines n'auraient pas eu besoin de payer les soldats. Les disciples seraient juste discrédités tout seuls, parce que la foule aurait attendu de voir Jésus ressuscité. Et puis les jours passant, les disciples ne montrant pas Jésus ressuscité, l'affaire aurait été terminée d'elle-même. Hein. Mais les autorités romaines prennent l'affaire suffisamment au sérieux pour voir là la nécessité d'essayer de mettre en place un plan pour étouffer l'affaire. Bref, l'étouffement, la tentative d'étouffement en tout cas, valide, confirme, elle nous assure de l'historicité de la résurrection. Quatrième point, le dernier, une résurrection prolongée. Ça, c'est les versets 16 à 20. Ça ne s'arrête pas là. Le récit de Matthieu continue dans ces cinq derniers versets. La résurrection se prolonge. Jésus n'est pas juste mort, ressuscité, retourné auprès du Père, et puis voilà, en attendant, il ne se passe rien jusqu'à son retour. On ne sait pas trop quand ça va se produire. Non, la résurrection continue. Jésus est présent aujourd'hui. Il le promet à ce moment-là à ses disciples. Il n'est pas juste ressuscité pour quelques jours pour nous faire un petit coucou et puis dire « voilà, je suis là ». Il est ressuscité pour toujours. Et il est avec ses disciples tous les jours. Et ce n'est pas tout. Jésus va continuer son travail d'établissement de son royaume. Il va le continuer, non pas lui-même directement, mais il va le continuer par l'intermédiaire de ses disciples, par l'action de ses disciples. En fait, ce n'est pas tout à fait par l'intermédiaire de ses disciples, mais c'est par son action dans ses disciples. C'est parce qu'il est avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde qu'il va continuer ce travail d'établissement de son royaume dans le monde. Tout pouvoir lui a été donné et il donne cette mission à ses disciples de faire d'autres disciples parmi toutes les nations. Il donne la mission à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur donne cette mission d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. Mais ce n'est pas les disciples seuls qui doivent faire ce travail. C'est Jésus qui le fera. C'est Jésus qui est avec eux jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui est avec eux qui fera ce travail où ses premiers disciples qui sont avec lui vont faire d'autres disciples, qui vont faire d'autres disciples, qui vont faire d'autres disciples et qui arrivent jusqu'à nous. La résurrection ne s'arrête pas au moment de l'ascension. C'est un phénomène qui continue encore aujourd'hui. Le Jésus, le Christ ressuscité, est présent encore aujourd'hui. Prends encore 2 minutes pour réfléchir aux applications de ce texte. Je crois que ce texte, il nous laisse avec 2 applications. 2 applications, et je vais vous donner 2 mots un peu barbares pour qualifier ces 2 applications, mais je vais les expliquer, ne vous inquiétez pas. Une première application, elle est d'ordre apologétique. Et une 2e application qui est d'ordre missiologique. Vous êtes prêts ? Première application d'ordre apologétique. Donc entre nous, apologétique, c'est juste un mot compliqué pour parler de la défense de la foi. Comment on fait pour défendre la foi chrétienne par des arguments logiques, raisonnables ? Comment ce texte peut nous aider à défendre la foi chrétienne ? Ce texte, il valide clairement la résurrection. Par le fait que ces femmes ont vu un ange, par le fait que ces femmes ont vu Jésus lui-même, par le fait que les autorités romaines ont essayé d'étouffer l'affaire, par le fait que les disciples par la suite ont vu et ont reçu cette mission de Jésus, on en arrive à la conclusion que oui, clairement, la résurrection est historique. La résurrection qui est au cœur de la foi chrétienne est historique. Ce n'est pas un mythe. Et ça nous montre que la foi chrétienne a une réalité historique. Ce n'est pas juste une histoire fictive basée sur des légendes d'autrefois. La foi chrétienne est fondée sur des éléments rationnels. Et je crois que c'est un argument qui, déjà pour nous-mêmes, nous donne de l'assurance. Ce que nous croyons, ce n'est pas juste du blabla. Dieu ne s'adresse pas juste à nos émotions, mais il s'adresse à nos intelligences et il nous assure dans nos intelligences de la vérité des faits historiques qui sont à la base de notre foi. Mais c'est aussi un argument fort pour dire autour de nous que Jésus est vraiment ressuscité. C'est un argument fort pour des sceptiques, pour leur dire que c'est un fait. Aucun historien sérieux, sans remettre en cause tout le processus de recherche historique, ne pourra nier la résurrection. On peut décider de ne pas y croire. Mais disons, factuellement, avec les documents que nous avons, on ne peut pas nier le fait historique de la résurrection. 2e application, d'ordre missiologique. Et là, de nouveau, entre nous, missiologique, c'est juste un mot compliqué pour parler de la mission que nous avons en tant que chrétiens. Jésus nous laisse une mission dans ces versets, vous avez remarqué. Il laisse une mission à ses premiers disciples, mais en fait, il laisse une mission à tous ses disciples dans l'histoire. Il nous laisse une mission à nous, les disciples du 21e siècle. Nous qui sommes les disciples des 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 disciples de ses premiers disciples. Qui avait reçu cette mission. Notre mission, c'est d'aller, de faire des disciples parmi toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Gros programme, Ça fait 2000 ans que ça dure. Nous devons annoncer Jésus. Jésus mort pour nos péchés. Jésus ressuscité, vainqueur de la mort. Et on doit faire ça dans le monde entier, parmi toutes les nations. C'est notre job. Vous aimez bien rêver ? Moi, j'aime bien rêver. Et je vous propose qu'on rêve, juste 2 minutes maintenant. On estime, et ça, c'est les chiffres de l'Alliance évangélique mondiale, on estime qu'il y a à peu près 1/12 de l'humanité qui est évangélique, donc qui croit au message de l'Évangile. Alors vous allez me dire, bon, il y a sans doute parmi ces gens-là une proportion qui n'a pas vraiment compris et qui n'a pas vraiment accepté le message de l'évangile, mais qui fréquente une église évangélique juste par tradition. C'est vrai. Mais en même temps, on pourrait dire aussi que dans les autres branches du christianisme, il y a sans doute des hommes et des femmes qui ont authentiquement compris le message de l'évangile. Et du coup, voilà, on peut peut-être se baser à peu près sur ce chiffre, de dire un 1/12 de l'humanité qui a compris vraiment l'évangile. On peut s'imaginer qu'une personne sur 12 connaît Jésus-Christ. Peut-être. On n'en sait rien. On ne connaît pas les cœurs. On n'est pas Dieu pour sonder l'humanité entière comme ça. Mais on peut imaginer ça. Si c'est le cas, on peut en déduire que si on s'y met tous demain, si chaque jour les chrétiens annoncent l'évangile, si chaque chrétien se décide de prendre un an pour faire ce programme que Jésus nous a laissé, faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si chaque jour, chaque chrétien fait ça, et qui fait ce programme avec une personne pendant une année. Et puis si on oublie même le phénomène de cumulation, on dit juste que le nombre de chrétiens de départ va faire ce travail, et que les disciples qui vont s'ajouter au fur et à mesure ne feront pas ce travail, mais juste les chrétiens actuels font ce travail, en 12 ans, c'est fini. La mission que Jésus nous a laissée est terminée. Dans 12 ans, l'humanité entière serait théoriquement, dans nos rêves, hein, touchée par la bonne nouvelle. C'est énorme, non? Je pense qu'on est dans une période un peu unique de l'histoire de l'Église. Un temps absolument qui n'a jamais existé dans le passé. On a la possibilité aujourd'hui de mener à bien la mission que Jésus nous a donnée jusqu'au bout. Et en plus, on a les moyens technologiques pour le faire. C'est maintenant le temps d'accomplir la mission de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, c'est un rêve. C'est clair. On ne connaît pas les cœurs. On ne sait pas qui appartient vraiment à Christ dans le monde. Et puis, en plus, on n'a pas du tout les moyens de coordonner un travail pareil. Il n'y a que Dieu qui peut réveiller son Église pour faire cette mission. Il n'y a que Dieu qui peut coordonner, initier et mener à bien ce travail. Peut-être qu'il le fera. On le souhaite. Ce serait à sa gloire. Mais bon, en attendant, nous, on rêve. Et parfois, ça nous fait du bien de rêver. Ça nous fait du bien de rêver aussi. Ça nous encourage, ça nous remplit de zèle parce qu'on se rend compte que cette mission, elle est accessible. Notre job, c'est pas de coordonner tout ce grand mouvement. Notre job, c'est de faire ce travail à notre niveau. C'est de nous y mettre. C'est d'aller, de faire des disciples dans toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer ce que Jésus a prescrit. Chacun de nous, là où nous sommes, avec nos collègues, avec nos familles, avec nos voisins, avec nos amis. Pâques, c'est une mort qui donne la vie. C'est une vie qui détruit la mort. Alors, communiquons ce message. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour cette résurrection. On veut te remercier parce que cette résurrection, c'est pas une fable qui vient d'un lointain passé. C'est un fait historique. On veut te remercier parce que Jésus est vraiment ressuscité. Et on veut te remercier parce que, puisqu'il est vraiment ressuscité, nous pouvons avoir l'assurance que son sacrifice est suffisant pour pardonner nos péchés. Nous voulons te remercier parce que, puisqu'il est ressuscité, nous pouvons avoir l'assurance que nous aussi, nous allons ressusciter, nous allons passer l'éternité dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être prêts à défendre notre foi avec ces éléments historiques. Aide-nous à être prêts à entrer dans cette grande mission que Jésus nous a laissée suite à sa résurrection, d'établir son royaume dans le monde. Pas parce qu'on veut être fort, pas parce qu'on veut se mettre en avant, mais parce que nous voulons que tu sois glorifié dans ce monde. Seigneur, je te prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.